France Culture.
Le rap a-t-il vraiment gagné en tête des ventes et des écoutes? Le rap s'installe aujourd'hui au cœur de l'agenda politique et culturel, comme l'illustre l'ouverture annoncée d'une maison des cultures urbaines à la Villette par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ces signes de reconnaissance trahissent pourtant des tensions profondes, légitimité disputée, appropriation culturelle, gentrification, fragmentation des scènes et effacement progressif de l'héritage contestataire du genre. Alors, peut-on encore parler de contre-culture lorsque le système célèbre ce qu'il avait autrefois rejeté sans pour autant en adopter les causes? Pour en discuter, pour en débattre aussi, trois invités ce soir que j'ai le plaisir d'accueillir. Mehdi Maizi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste du rap français, vous dirigez la section hip-hop chez Apple Music France et vous présentez chaque semaine l'émission Le Code. Vous avez par ailleurs sorti le 5 mars dernier cet ouvrage intitulé Le rap a gagné à quel prix? C'est aux éditions de La Fabrique. À vos côtés, Vicky Herr, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rappeuse et beatmakeuse, vous avez récemment sorti deux EP, Système en 2024. Vous parlez de l'industrie musicale et de ses contradictions, ainsi que Lobby le 21 mars 2025, dans la même veine, mais plus introspectif.
C'est ça.
Et face à vous, Kevan Jazavazadeh, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'UFR Culture et Communication à Paris 8. Et vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé Hot, Cool and Vicious, genre, race et sexualité dans le rap états-unien. C'est aux éditions Amsterdam, ça a paru en 2020. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du Soir.
Mais que je ne suis pas né ici.
Multiples sont les routes qu'ils dévoilent. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile.
Si c'est pas ta France, je trouve ça fascinant. Venant d'un chebout de ma main.
Et puis, ma soeur a des bouillons. On meurt à des bouillons.
Mon histoire, c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités, éclaté les déblatères.
Hey, les bourgeois deviennent pauvres. Hey, j'ai vite de pauvres. Hey, ça vient dans les sous-bois.
Hey, tout commence dans la cour de récréation. Malabar, Choco BN, salle noire, ma génération.
Anti-système et je fais du rap, oui, je représente ton amalgame.
Sauvagerie. T'as vu le prix que ça coûte, un billet d'avion? J'ai découvert la Martinique à 26 ans, j'avais pas l'air con.
Je mets toujours à part en tête que je prie.
Je vais pas hiérarchiser de la haine, je ne généralise pas les fautes commises. Mais je ne crois pas en l'extermination d'un peuple pour une terre promise.
Fuck le game si c'est qu'un jeu, faut que je redémarre le système.
Et un mix maison signé François Richer, Rodi Eken. Et je le disais en introduction, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé l'ouverture à l'automne 2025 de Freestyle Villette, maison des cultures urbaines, un espace de 1000 mètres carrés dédié au hip-hop et aux cultures urbaines au cœur du parc de la Villette dans le 19e arrondissement de Paris. Mehdi Maizi, est-ce que c'est une illustration supplémentaire, incandescente même, que le rap a effectivement gagné, ou bien c'est la preuve que le rap court toujours un risque fort, celui de ne plus être une contre-culture véritable?
Je pense que ça prouve un peu les deux, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, pour prendre la deuxième partie de la question, le rap, aujourd'hui, quand on gagne, on n'est plus vraiment une contre-culture. Je pense qu'à la base, c'est une contre-culture, le rap, comme la plupart des genres qui naissent, on va dire, dans l'underground, souvent en opposition par rapport à une culture dominante, une culture populaire, par définition. Aujourd'hui, le rap étant, comme on aime à le dire, la musique numéro un, c'est quelque chose qu'on peut modérer, mais qui est globalement celle qui est la plus puissante dans les charts, la plus influente aujourd'hui, ça n'est plus une contre-culture, par définition. Aujourd'hui, c'est une culture populaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dissidences au sein de cette culture rap, ça ne veut pas dire que tout le monde est aseptisé, mais fatalement, quand une musique est un genre, d'ailleurs, artistique et aussi populaire, tout le monde s'en empare. Et donc, on n'est plus forcément dans la contre-culture, on est dans quelque chose de pop, même. Plus que populaire, même de pop, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de code culturel.
Vicky, vous êtes d'accord? Dans le fond, vous-même, vous qui êtes rappeuse, vous qui êtes beatmakeuse, vous faites de la pop désormais?
Peut-être.
C'est pas ce que j'ai dit.
Non, ouais. Non, bah, pour rejoindre ce que Mehdi a dit, oui, je pense que on n'est plus totalement dans la contre-culture, mais le rap garde quand même cet esprit-là, mais plus à part entière, on va dire. C'est-à-dire qu'on va retrouver des codes qui appartiennent toujours. C'est peut-être moins marginal aussi, en vrai qu'à la base. Mais je pense qu'il en reste encore. Il reste encore un peu de contre-culture et Dieu merci, en vrai, parce que c'est ça même l'essence de ce mouvement-là qui est contestataire à la base. Mais après, il faut de tout, en fait, pour faire un monde.
Quand vous dites qu'il reste de la contre-culture, où elle se loge, où elle se trouve justement dans des œuvres particulières, dans des sous-mouvements que vous avez identifiés ?
Bah, je pense que, en tout cas, quand je vois les, je vais dire la nouvelle génération entre guillemets, parce que j'en fais partie en vrai, mais il reste encore des artistes qui revendiquent des choses, qui parlent de sujets qui fâchent, on va dire. Et d'un autre côté, il y a des artistes qui sont beaucoup plus mainstream. Et je pense que l'opposition arrive à ce moment-là, en fait. Donc oui, il reste encore cette part de contre-culture, mais le fait que la musique soit le rap soit le genre numéro un aujourd'hui, bah, a fait en sorte qu'il soit accessible et ouvert à un plus grand nombre de personnes. Et je pense que, bah, on arrive à cohabiter comme ça. Donc c'est intéressant et c'est bien.
Kevin Javadzadeh, je voudrais qu'on revienne sur l'intitulé de ce lieu qui va ouvrir à la Villette, Freestyle Villette, Maison des Cultures Urbaines. Quelle question ça pose, cultures urbaines, c'est un terme, une expression même critiquée parce qu'elle lisse, parce qu'elle efface énormément de choses.
Oui, alors premièrement, je suis pas sûr que le rap a forcément gagné à travers Freestyle Villette, dans le sens où, de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas encore si clair que ça la place qui serait donnée au rap dans ce lieu. Et ensuite, effectivement, l'appellation même de Maison des Cultures Urbaines, à un moment où on a plutôt tendance à, que ce soit du côté de l'industrie, du côté des médias, à délaisser justement ce qualificatif d'urbain, peut interroger. Et il y a sans doute aussi, faut pas être totalement naïf, il y a sans doute aussi un petit peu un jeu politique qui se joue dans cette Maison des Cultures Urbaines qui serait portée par le ministère de la Culture, en l'occurrence Rachida Dati, face à d'autres lieux institutionnels qui existent également déjà.
Mehdi Maizi, ça vous pose problème, vous, cette expression de cultures urbaines? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça dissimule, surtout, ce mot-là?
Effectivement, je me permets de rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est complètement un mot qui, aujourd'hui, est presque banni de la culture rap, en fait.
C'est étrange de l'avoir choisi, alors.
Ça montre, je pense, une déconnexion avec ce qui se passe. Attention, c'est un mot qui a été utilisé. C'est-à-dire que même avec l'avènement des plateformes de streaming, on va dire en 2017, il y avait un genre qu'on appelait la pop urbaine, qui n'était pas du rap, qui était, on va dire, les artistes un peu incarnés par des gens comme Aya Nakamura, comme Dadju, c'est-à-dire des gens qui sont pas loin des artistes rap, mais qui ne sont pas vraiment des rappeurs, qui chantent et qui ont amené en fait un nouveau style. Tiakola aujourd'hui en serait l'exemple parfait, puisqu'en plus au moment où on parle, il vient de sortir de deux concerts à l'Accor Hotel Arena. Donc c'est un artiste un peu qui pourrait incarner ce qu'on appelait avant la pop urbaine. Mais tout le monde s'est globalement mis d'accord pour se dire que ce terme-là, il était assez réducteur et qui ne voulait pas dire grand-chose. Surtout en plus dans un moment actuel où aujourd'hui, des gens... Enfin, d'ailleurs, le terme urbain, il y a un côté... J'imagine une banlieue, j'imagine les gens de la rue. Et évidemment qu'une partie du rap vient de là, mais c'est réducteur de dire ça, puisque aujourd'hui...
Réducteur et fourre-tout, c'est
paradoxe. Réducteur et fourre-tout, absolument. Surtout qu'aujourd'hui, n'importe qui peut rapper. Je veux dire, on a plein d'exemples de gens qui sont issus de classes sociales différentes, d'endroits, de territoires différents. Donc, ça montre que les gens derrière cet événement, enfin, ce lieu-là, pardon, sont complètement déconnectés avec les véritables discussions actuelles qui peuvent agiter le milieu rap. Et il y a des discussions qui existent, mais oui, le terme urbain, aujourd'hui, tout le monde s'est plus ou moins mis d'accord pour se dire que c'était sinon inutile, au pire, un peu même irrespectueux. Donc oui, ça montre juste une déconnexion totale.
Je voudrais vous faire entendre une archive qui date des années 1990. C'est dans l'émission qui existait déjà, d'ailleurs, Envoyé spécial.
Quand tu grandis, que tout le temps on te parle des Gaulois, des Gaulois, des Gaulois, qu'on te montre des photos de Gaulois blonds et yeux bleus, tu te dis au bout d'un moment, moi je ressemble pas du tout à un Gaulois, donc tu te dis, bon bah, il va falloir que je sache d'où je viens un petit peu. Puis ce mouvement-là, c'est ce que ça permet aussi. C'est-à-dire que tous les gens qui se posent plus ou moins cette question, ou qui se sentent un petit peu exclus, ou plus ou moins, quoi, qui font un petit peu de parano aussi des fois, ben ces gens-là, ben, ils se réunissent tous et puis ils forment une espèce de, ce qu'ils n'avaient pas avant, d'une culture, quoi. La culture, si tu veux, comme nos ancêtres auraient pu l'avoir, mais sur le bitume, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec, quoi. On va faire notre culture dans le béton.
Vitière, est-ce qu'il vous semble aujourd'hui, vous, que les rappeurs, que les artistes en général du mouvement rap sont moins politiques que ne pouvaient l'être les générations passées ou précédentes ?
Oui et non, parce que encore une fois, en fait, il y en a qui choisissent de défendre des causes, de prendre la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut plus imposer, entre guillemets, à un artiste d'être politisé. Après, on fait du rap, donc pour moi, il va de soi qu'il faille se positionner sur des sujets précis ou qui font l'actualité, mais on peut pas l'imposer aux gens. Après, aujourd'hui, par exemple, et sur les dernières années, je trouve que, mais c'est de mon prisme, je trouve que les artistes féminines ont été celles qui se sont le plus mouillées et qui ont le plus eu des discours politisés.
En traitant de quel sujet, par exemple?
Bah déjà de notre place en vrai dans l'industrie, parce que à chaque fois qu'on fait des interviews, c'est un sujet qui revient sans cesse, et je pense que on est toutes d'accord en tant qu'artiste féminine déjà d'arrêter avec ce terme de rap féminin qui pour moi rejoint un peu le thème urbain en fait, qui c'est pour moi qui sont deux termes totalement péjoratifs, et le fait de combattre ça déjà, parce que quand on est une femme et qu'on veut sortir de certains carcans, les premiers discours qu'on peut avoir ou les premières choses qu'on peut retrouver, ça va être des propos assez misogynes. Le fait même d'être une femme qui exerce dans un milieu dit masculin qui est le rap déjà, on se prend énormément de violence, et le fait d'aller à l'encontre de ça, c'est défendre tout un mouvement, toute une mouvance en vrai, et se positionner pour un débat qui est beaucoup plus profond, qui est presque sociétal en vrai.
C'est compliqué pour vous, comme artiste, comme rappeuse qui a réussi, ça reste compliqué encore aujourd'hui d'être une femme dans ce milieu du rap?
Oui, bien sûr, ça reste compliqué. Après, moi, je suis de celles qui ne s'en plaignent pas, au contraire, qui essaient d'en faire une force, et ne pas s'en plaindre justement et essayer d'en faire une force, c'est refuser par exemple des interviews où on va encore venir me parler de ma place en tant que femme dans la musique, et rediriger ça plutôt vers ma musique. Je préfère qu'on m'invite pour me parler de ma musique, des projets que je sors, plutôt du fait que je sois une femme qui fasse du rap.
Kevin Javadzadeh, pour vous, la génération actuelle, parce que c'est quelque chose qu'on entend, qu'on lit énormément, vous la trouvez moins politique, moins engagée sur des sujets de société, sur des sujets collectifs, ou dans le fond, c'est là encore une fausse idée?
Alors, on entend beaucoup dire ça. Je pense que c'est en fait un tableau qui est plus nuancé que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et Vicky parlait justement des rappeuses qui sont parmi les premières à prendre position. Et si je pense par exemple à l'évacuation de la Gaîté Lyrique, oui. où on a entendu beaucoup de rappeuses notamment prendre position. Je pense
Naira,
Théodora.
Vous faites référence justement à ces réfugiés qui étaient présents au sein de la Gaîté Lyrique à Paris dans le 2e arrondissement et qui ont été évacués il y a une quinzaine de jours.
Voilà, et donc ça fait partie des prises de position où on a beaucoup entendu, en l'occurrence surtout des rappeuses, mais pas que, mais beaucoup de rappeuses prennent position à ce sujet-là. Je pense également aux élections législatives de l'été dernier, où beaucoup de rappeuses avaient pu prendre position aussi. Des artistes peuvent continuer à le faire aussi. Il y avait eu une mixtape qui était sortie avec plus ou moins de... Voilà, c'était plus ou moins heureux, mais en tout cas, il y a toujours du rap qu'on appelle parfois engagé, mais là aussi, c'est un qualificatif qui est, à mon avis, impropre, parce que ça laisserait entendre qu'il y aurait un rap engagé, un autre qui ne le serait pas, et que ce serait forcément, quand on est explicitement politique, que ce serait du rap engagé. En fait, les artistes ont toujours pris position, ils et elles continuent de le faire aujourd'hui. Ce qui a peut-être changé, c'est la place du rap dans la société aujourd'hui, dans le sens où le rap est aujourd'hui davantage intégré, on va dire, à l'écosystème médiatique, et aussi, peut-être, ce qui a changé, c'est aussi qu'on attend davantage des artistes qu'ils et elles prennent position, notamment sur les réseaux sociaux numériques. On leur dit alors pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de ci et de ça, et donc ça peut aussi produire un effet parfois sans doute de mise à distance du politique chez certaines ou certains artistes qui justement ont envie de rester à leur de défendre le fait que c'est avant tout l'activité artistique qui prime. Donc voilà, c'est en tout cas, le tableau est plus nuancé que ce qu'on dit.
Mehdi Maizi, alors vous décortiquez le temps un peu plus long, mais je sais pas si vous le regrettez. En tout cas, vous constatez peut-être que ces artistes contemporains sont moins engagés que ceux des années de la fin des années 90, par exemple.
En fait, moi, déjà pour effectivement le préciser, je demande pas aux artistes de plus s'engager.
Je dis pas que vous le regrettez, mais vous constatez.
En fait, c'est important de le dire parce que c'est plutôt un constat. Moi, pendant longtemps, j'ai souvent d'ailleurs dit aux artistes qu'ils devaient faire ce qu'ils voulaient, les artistes, et qu'ils n'ont pas, il n'y a pas d'injonction à être politique, à donner des consignes de vote, etc. En revanche, ce que je constate, c'est que cet engagement-là, si tant est que ce soit le bon terme, effectivement, il est juste beaucoup moins présent chez les artistes mainstream qu'il y a 25 ou 30 ans. C'est juste factuel. C'est-à-dire que, typiquement, vous prenez n'importe quel gros albums de rap français de la fin des années ou du milieu des années 90, il y a quand même des positionnements politiques qui sont clairs. Notamment, il y a un ennemi commun qui est le Front National, un ennemi désigné qui est Jean-Marie Le Pen, qui est désigné par différentes formes de terminologie d'ailleurs à l'époque, mais il est clair. Aujourd'hui, dans le rap actuel, c'est plus vraiment le cas. Je dis pas que ça n'existe pas. Évidemment qu'il y a plein d'artistes qui le disent, mais il y a aussi plein d'artistes pour qui ça n'existe pas, qui semblent un petit peu déconnectés par contre de cette réalité-là. Ça, c'est aussi une réalité. Et je parle pas que de la politique et d'un positionnement anti-extrême droite. Je parle même de plein de sujets de société qui sont parfois complètement absents des textes de rap. C'était pas le cas il y a 30 ans. Parce que je crois qu'il y avait une forme de rap qui était par définition un peu plus politique. Mais c'est pas uniquement en France. Hein. Je pense qu'en France, on était aussi héritier d'un rap new-yorkais, des artistes comme Public Enemy, etc., qui ont eu un énorme retentissement en France. Et donc, ça a eu beaucoup d'impact. Aujourd'hui, le rap populaire, globalement même dans le monde, c'est plus un rap qui est extrêmement engagé. C'est un rap qui est beaucoup plus festif, léger. Et je pense que même quelque chose qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui, les artistes français ont beaucoup moins de complexes avec le succès. Et donc, c'est en ça qu'il y a aussi une forme de, quelque part, de changement, même par rapport à l'industrie, c'est que dans les années 90, les artistes avaient peur d'être commerciaux. C'était le grand terme. Il ne faut pas être commercial. Donc, IAM a très mal vécu le succès du Mia pendant longtemps, alors que c'est un morceau qui a changé leur vie. Pareil pour NTM avec La Fièvre. Aujourd'hui, les jeunes artistes, souvent, cherchent à être populaires, cherchent ce succès-là. Donc, c'est aussi quelque chose où il y a même une volonté d'être populaire dans même la manière de construire leur carrière dès le début. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très différent parce que ce rap-là, aujourd'hui, il est générateur de plus d'argent. Donc, c'est pas uniquement une question de positionnement politique, c'est aussi une question de mentalité et de comment ça va avoir des répercussions même sur la musique. Et parfois, c'est des choses qui peuvent être agréables artistiquement. Hein. Je dis pas qu'il faut revenir à avant. Je remarque juste que des choses ont changé là-dessus.
Mais justement, tentons de comprendre justement pourquoi les choses ont changé. Est-ce que pour vous, ce sont des choix individuels? Les artistes sont peut-être plus opportuniste, ou alors en tout cas ça fait partie d'une stratégie commerciale de se dépolitiser, ou bien c'est une question plus large et peut-être l'industrie musicale, l'industrie du rap qui fait émerger des talents, des artistes moins politiques?
Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a effectivement une partie d'opportunisme chez des artistes aujourd'hui, mais que je ne peux pas blâmer. Quand on commençait une carrière en 91, on se disait pas qu'on allait faire carrière, justement. Il n'y avait pas d'économie dans le rap, il n'y avait pas d'industrie rap, donc on sortait, même sortir un album, c'était prodigieux déjà. Donc on faisait des morceaux, puis des fois on allait choper un deal dans une major, et puis on allait peut-être sortir un album un jour. NTM a souvent dit qu'ils ont commencé à vivre à peu près correctement de leur musique après le troisième album. NTM n'a fait que 4 albums dans leur carrière. Donc c'est relativement tard et dans une deuxième partie de carrière. Aujourd'hui, en ayant un morceau qui a un petit succès sur TikTok, on peut signer pour une énorme somme en maison disque. Donc forcément, aujourd'hui, le rap, c'est aussi un moyen. C'est pas uniquement une question de passion. C'est aussi un moyen de s'en sortir. C'est un moyen de faire de l'argent. Je peux pas blâmer, moi, un ou une jeune artiste de vouloir faire de l'argent là-dessus. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, sur la partie plus politique, alors je ne vais pas faire de sociologie de comptoir. Je pense qu'il y a des gens plus talentueux que moi à la table. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être une question de désenchantement politique qui peut être plus liée à une forme de génération qui, à mon avis, peut-être croit moins en la politique que dans les années 90. Peut-être croit moins en la gauche. Je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui se joue et qui se retrouve assez logiquement dans les textes des artistes. Je peux pas les blâmer de ne pas croire au Parti Socialiste. C'est pas une critique que je peux leur faire, mais juste je constate qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé là-dessus.
Kevin Javadzadeh.
Oui, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être le discours politique, c'est peut-être déplacé aussi des morceaux. Avant, c'était directement dans les morceaux qu'il y avait des formes d'engagement et que là, on le retrouve aussi plutôt sur des prises de position.
Oui, c'est vrai.
En dehors,
public,
en fait.
Oui,
exactement.
Oui.
Et donc, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, ça passe par des événements qu'on organise ou qu'on soutient. Voilà, il y a eu un certain nombre de choses, même sur l'actualité internationale, sur le conflit israélo-palestinien, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites également. Mais c'est vrai que c'est dans les morceaux, on retrouve globalement moins les grands thèmes classiques du rap des années 90.
Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ces engagements-là sont quand même rarement, je dis pas jamais, mais rarement l'œuvre des plus gros artistes.
Oui, ça c'est vrai.
On a souvent des artistes, pas forcément de niche, mais on va dire qui sont pas les plus gros artistes mainstream, qui souvent, je ne connais rien de leurs intentions, mais plutôt vont éviter de prendre certaines positions qui pourraient apparaître comme risquées. Vraiment,
ça c'est l'opportunisme. En tout cas, c'est une volonté de ne pas vouloir prendre de risques.
Exactement. Ou peut-être autre chose. Je ne suis pas dans leur tête. Mais en tout cas, je remarque que, effectivement, sur la Palestine, par exemple, ou sur les législatives de l'année dernière, des gens ont pris parti, rarement les plus gros vendeurs du pays.
Vicaire, je reviens quand même sur le poids, l'importance que peut jouer l'industrie musicale. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, qu'elle fait émerger d'autres types de talents comparé à ceux qu'on a vu évoluer à la fin des années 90, et notamment des talents moins politisés, des artistes moins engagés sur le fond?
Je pense que ça reste le choix de l'artiste, en fait, hein, en vrai. Chacun est libre et choisi s'il veut se politiser ou pas. Je pense que après, effectivement, il y a un truc qui est dans l'air, comme quoi, dans l'industrie, si tu prends position pour certains sujets, tu vas te retrouver blacklisté ou des choses comme ça. Maintenant,
quel sujet, par exemple?
Bah, le conflit israélo-palestinien, par exemple. Moi, j'ai discuté avec des personnes qui voulaient clairement pas en parler, par peur de se retrouver blacklisté. Donc, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas.
Par peur de scinder aussi leur communauté?
Oui, aussi. Aussi, je pense que chacun a sa sensibilité. Et dans nos communautés aussi, chacun est sensible à certains sujets. Il y a des personnes aussi, parce que c'est des commentaires que j'ai déjà reçus, qui n'aiment pas que leurs artistes soient politisés, justement, qui disent « Ah, nous, on vient sur tes réseaux pour écouter de la musique et pas pour te voir prendre la parole sur des sujets, etc. » Donc, je pense que c'est une histoire de sensibilité. Et quand on décide aussi de pas se politiser, il y a certains aussi pour qui c'est un luxe, parce qu'ils sont dans une position où ils peuvent déjà se le permettre. Et je pense aussi que chacun voit, en fait, l'impact que ça peut avoir ou non sur sa carrière. Et c'est aussi ça rentre aussi dans une histoire de valeur aussi. C'est est-ce que on se sent concerné, est-ce que ça nous touche. C'est, je pense que c'est beaucoup plus profond dans certains cas.
C'est intéressant ce que dit Vikier Mehdi Maizi quand elle dit au fond il y a des gens qui disent nous on vient pour écouter de la musique, pas pour écouter une musique engagée nécessairement. Est-ce que ça veut dire aussi que le public, les gens qui écoutent le rap, ce public là a changé au cours du temps et des décennies? Il y a d'autres attentes?
Alors déjà, faut quand même dire que le rap n'est pas par définition uniquement engagé. Il y a toujours eu du rap festif. Le premier tube de l'histoire du rap, c'est Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. C'est un morceau tout à fait festif et joyeux. J'aime bien dire qu'un album de Blowfly, un rappeur américain qui nous a quitté d'ailleurs il y a quelques années, paix à son âme, en 79, sort un album qui s'appelle Porno Freak, un album de pornographie, donc avec assez peu d'engagement. Après, on pourrait me rétorquer que le simple fait pour ces artistes-là d'exister à l'époque et de prendre la parole, c'était déjà une forme d'engagement.
Ils incarnaient un engagement.
Et absolument. Le simple fait d'exister et de prendre la parole, évidemment, ça n'avait pas la même valeur que le faire aujourd'hui dans un milieu. Mais quand même, le rap n'a pas toujours été uniquement vecteur de messages politiques. Ça a toujours aussi été du voilà, peace, unity, un avic fun. C'est aussi ça, le hip-hop. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'aujourd'hui, quand on est un genre qui a réussi, en tout cas, ou qui est très populaire, on est aussi écouté par des gens qui, en fait, connaissent pas vraiment cette musique-là. Mais c'est comme, moi j'aime le dire, c'est comme le cinéma. Tout le monde regarde des films. Tout le monde n'est pas cinéphile. Il y a plein de gens qui regardent un film quasiment tous les soirs, mais ils savent pas forcément, ils sont pas forcément érudits sur la question, et ils ont le droit. Et donc, je pense que dans le rap, aujourd'hui, on a plein d'auditeurs et d'auditrices qui vont écouter du rap toute la journée, mais qui ne sont pas vraiment intéressés par l'histoire du rap et par le côté contestataire que peut revêtir une partie du rap. C'est le sens de l'histoire quand une musique devient populaire. Il y a aussi des gens qui s'y intéressent, mais qui, en fait, sont pas forcément passionnés par ça.
Je voudrais vous faire entendre une autre archive. Elle date, celle-ci, de 1999, et vous reconnaîtrez peut-être la voix de Diams.
Faut pas être invendu. Moi, je sais que j'ai une ceinture trop serrée pour que mon pantalon y tombe. C'est-à-dire que, quand en aucun cas, ni pour de l'argent, ni pour le succès, pour la notoriété, tout ça, j'irais faire un rap qui est pas propre à moi. Et je crois que c'est ça qu'il y avait avant. Avant, les gens, ils faisaient du rap parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Et que ça, même peut-être, ça dérangeait. Et ceux qui arrivaient à apprécier ça, ils les appréciaient eux. Aujourd'hui, il y a des mecs ou des filles, elles vont faire du rap un peu par procuration, quoi. Ils respectent pas ce qu'ils font. Ils ont un truc conforme. Faut faire ça, comme ça, pour que ça passe là et là, pour que je sois perçu de telle ou telle façon.
Kevin Javadzadeh, il y a peut-être une ligne rouge dans cette histoire courte, récente du rap, c'est celle de la légitimité, on l'entend bien dans les propos de Diams. Comment se pose cette question aujourd'hui de la légitimité dans le rap français notamment?
Elle peut se poser à différents niveaux, elle se pose déjà effectivement au niveau de la place du rap dans la société et donc de ce que un sociologue, Karim Amou, a appelé l'illégitimité paradoxale du rap. C'est une musique qui est à la fois très légitime du point de vue, disons, en tout cas, elle engrange des succès commerciaux très importants. Elle est écoutée, d'après les derniers chiffres publiés par le DEPS, par 80% des moins de 25 ans. Donc c'est une musique qu'aujourd'hui, voilà, très clairement.
80% des moins de 25 ans.
Quasiment tout le monde aujourd'hui en écoute parmi les jeunes, en tout cas, c'est une évidence. Et pour autant, elle continue de faire l'objet d'appréciations, diverses dans les médias, par les pouvoirs publics. Le fait, par exemple, que, une ministre de la Culture puisse dévoiler un projet autour des cultures urbaines et donc notamment du rap, c'est quelque chose qui aurait été impensable il y a encore quelques années où, faut quand même rappeler qu'on avait plutôt tendance à poursuivre les rappeurs que de les célébrer du côté des pouvoirs publics. Et donc, on peut, interroger cette partie-là. Et puis ensuite, la question de la légitimité, elle peut se poser dans l'espace du rap lui-même et de se demander effectivement qui sont les artistes qui peuvent effectivement faire du rap, comment est-ce qu'ils vont être reçus par le public. Et là, ça dépend beaucoup en réalité du type de rap que l'on fait. La question de la légitimité, elle se pose pas du tout de la même façon si on fait un rap dur, de quartier, et que soi-même on n'en vient pas, par exemple, ou si on fait un rap davantage classe moyenne, un peu figure du héros un peu loser type Orelsan, ça se pose pas de la même façon. Mais quelqu'un comme Orelsan, par exemple, c'était effectivement une figure qui aurait beaucoup plus de mal à exister dans l'écosystème du rap dans les années 90.
C'est parfait, Kevin, vous m'avez fait deux parties. La première pour Vicky, la deuxième pour Mehdi. Je voudrais vous interroger, Vicky, justement, sur cette légitimité du rap dans l'espace public. Est-ce que vous avez le sentiment que le rap a des difficultés, justement, à percer la gangue de la légitimité, notamment la légitimité audiovisuelle? Est-ce que c'est compliqué pour le rap d'exister à la télé et en dehors des radios musicales spécialisées?
À la télé, peut-être plus que dans les radios musicales spécialisées. Après, en fait, c'est tellement drôle et paradoxal que le rap soit le genre numéro un. Et qu'on est encore et qu'on soit encore dans ces discussions là en fait. Ça montre clairement qu'il y a peut-être une volonté aussi de certaines personnes de faire en sorte, vu qu'on part du principe que le rap a déjà gagné, qui n'aille pas plus loin. Mais tout ça, pour moi, en fait, c'est encore une fois, ça fait écho à des problèmes sociétaux, en vrai, parce que le rap, qui est un genre urbain, qui est
vous avez mis des guillemets, je le précise, parce que les gens ne vous voient pas.
Voilà, qui est un genre urbain qui est fait majoritairement par des personnes racisées, qui appartient aussi à ces personnes-là, qu'on puisse encore discuter de sa légitimité aujourd'hui. Pour moi, je trouve ça presque grotesque, en fait. Le rap existe, le rap continuera d'exister. Et comme Mehdi le disait tout à l'heure, en fait, il y a cette notion de pop aujourd'hui. Et je pense que ça a participé grandement aussi que le fait que différents genres émergent du rap, ça a participé aussi à cette popularisation du genre. Mais je pense en tout cas que pour la question de sa légitimité dans les espaces publics, notamment les radios, etc., suffit de voir les chiffres, en fait. C'est un genre qui est encore en constante évolution, donc je pense pas que ça s'arrêtera aussitôt.
Mehdi Maizi, je vous pose la question d'une façon très directe, très crue. Est-ce que c'est un problème que des personnes blanches fassent du rap et réussissent?
Non, pour moi, la question ne doit pas être posée comme ça, puisque déjà dans l'histoire du rap, on va parler du rap français, puisque c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, il y a toujours eu quelques-uns des pionniers de cette musique-là sont blancs. Si on prend la Sainte Trinité des groupes de rap des années 90, même si on remontait dans les années 80 avec les vrais pionniers qui ont commencé à faire du rap, il y avait évidemment des blancs, pour répondre à votre question, mais dans les trois grands groupes de rap qu'on cite souvent, la Sainte Trinité, c'est IAM, NTM, Assassin. Bon, on a des blancs, alors avec des origines, parfois comme Akhenaton qui est d'origine italienne, mais Kool Shen qui est d'origine portugaise, d'accord, mais Rockin' Squad qui est blanc. Enfin, la question ne s'est jamais posée dans ces termes-là. Je pense qu'en France...
Certains la posent dans ces termes. Certains disent que c'est un problème. En tout cas, il y a de l'appropriation culturelle ou des formes d'appropriation culturelle.
Alors, il peut y en avoir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'appropriation culturelle ni qu'il n'y a pas de gentrification. Ça existe, mais c'est pas tant une question de couleur de peau, c'est plutôt une question de classe sociale. C'est comme ça que la question peut se poser dans ce pays, puisque nos quartiers, pour le coup, bien sûr qu'il y a évidemment de personnes racisées, pas que dans les quartiers, d'ailleurs dans les villes, puisqu'on parle de Marseille. Bon, Marseille, c'est une ville qui n'a pas de banlieue. La question se pose pas comme en région parisienne, où effectivement il y a des banlieues. C'est une ville avec effectivement des personnes racisées, mais aussi des personnes blanches, qui peuvent avoir des origines autres que françaises, ou qui n'en ont pas. Mais ça, donc la question, elle se pose pas comme ça. Et je pense d'ailleurs que dans le rap, Évidemment que déjà, il n'y a pas de racisme anti-blanc tout court, mais je pense que dans le rap, la question s'est jamais posée, en fait. Ça, la question, c'est, il n'y a jamais eu de conflit vraiment raciaux dans le rap. J'en connais pas. Alors évidemment, je pense que les gens qui posent la question comme ça se trompent à mon avis, et parfois peuvent juger des artistes à leur look, à leur visage, à leur faciès. Évidemment, il peut y avoir du délit de sale gueule. Mais non, évidemment que c'est pas un problème, et ça n'en a jamais été. Mon rappeur préféré, c'est Akhenaton. Donc, voilà, il est blanc, d'origine italienne, et il est musulman. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça, évidemment.
Kevin Javadzadeh, comment vous posez, oui, ce sujet de l'appropriation culturelle? Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qui vient d'être dit à l'instant?
Complètement d'accord, et c'est d'ailleurs une différence majeure entre les États-Unis et la France, où en France, l'existence de groupes multiethniques, en fait, elle est, ou multiraciaux,
définition.
Elle est là depuis les origines. Alors qu'aux États-Unis, effectivement, lorsque Dr. Dre va justement produire Eminem, beaucoup de rappeurs et de producteurs lui en veulent en disant, en gros, c'est fini le rap pour les Noirs. En France, la question ne s'est pas posée historiquement comme ça. Par contre, comme le disait Mehdi, ce qui va jouer, c'est davantage, par exemple, la question de la classe sociale, la question de un engagement réel, sincère avec cette culture. Et ce qui va poser, par exemple, souci, c'est lorsqu'on a les premières victoires de la musique qui décernent un prix pour le rap, dans une catégorie, disons, explicitement rap, on fait gagner face à des groupes qui sont très légitimes, qui font du rap depuis des années, on fait gagner Mano, un groupe de rap celtique. Et donc là, évidemment, la question se pose un petit peu différemment. Et sur le reste, sur la question de cette appropriation culturelle, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de méprise sur cette notion. Il n'a jamais s'agi de dire que des personnes blanches ne peuvent pas faire, par exemple, une musique qui aurait été popularisée ou inventée par des minorités ethno-raciales. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est plutôt les phénomènes de dépossession qui peuvent exister.
Et de déséquilibre.
De déséquilibre, voilà, et du fait que, par exemple, lorsqu'on considère la médiatisation, la consécration artistique, le succès commercial, il y a des artistes qui vont être davantage avantagés. Et si on repense à la médiatisation, lorsque Booba pouvait être reçu dans des talk shows, c'était pas la même chose que lorsqu'on recevait, par exemple, Giorgio ou Nekfeu, où on allait les rapprocher de la grande chanson française, de la littérature. Alors que pourtant, Booba aurait très bien pu faire l'objet de tels rapprochements lui aussi. D'ailleurs, d'autres l'ont fait dans des revues très prestigieuses.
Que pas Thomas Ravier, faut le dire.
Voilà, exactement. Oui, exactement.
Mehdi Maizi, quand on vous lit, hein, quand on lit Le rap a gagné, à quel prix, on a le sentiment qu'il y a une autre chose peut-être que vous regrettez ou que vous déplorez, c'est la fragmentation contemporaine du rap et plus précisément l'étanchéité entre ces sous-genres du rap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être ce constat que vous faites d'abord et peut-être pourquoi aussi c'est dommageable pour le rap?
Je ne sais pas si c'est dommageable, mais effectivement c'est une grande différence, je pense, avec la période qu'on vient de vivre. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, alors, ça n'a jamais vraiment été le cas, mais en tout cas, le rap est de moins en moins homogène. Il n'y a pas un rap, il y a des raps. C'est une phrase, une formule un peu bateau qui, en vrai, n'est pas nouvelle, mais je pense que c'est plus vrai que jamais. Aujourd'hui, vous pouvez prendre deux fans de rap, vous leur dites, c'est quoi tes 20 artistes préférés, ils vont citer 40 du coup, artistes différents. Je pense qu'avant, il y a 20 ans, deux fans de rap, on n'avait peut-être pas la même chose, mais on allait forcément avoir des gens en commun. Aujourd'hui, il y a tellement de sous-genres dont parlait Vicky hier d'ailleurs tout à l'heure, que du coup, il y a parfois, ça crée, et là encore, des déséquilibres et même parfois des questions de légitimité, puisqu'il y a des gens qui font pas la même musique, mais qui sont regroupés derrière l'appellation rap. Je pense qu'il y a aussi parfois, peut-être aussi une paresse et un manque de précision des journalistes rap, donc je m'inclus là-dedans, pour parfois
bien nommer... C'est votre critique ?
Oui, absolument, pour parfois bien nommer les sous-genres. Je pense que parfois on dit que tout est du rap, ça veut pas dire que ça n'en est pas, mais je pense que parfois il faut un peu plus préciser ça, puisqu'effectivement, entre PNL, Nekfeu que vous avez cité, et TH, qui est un artiste que j'aime beaucoup en ce moment, c'est pas la même chose, c'est pas le même son, c'est pas les mêmes flows. Donc,
mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça, justement, parce que ça permet, j'allais dire, d'attraper, entre guillemets, des publics extrêmement différents?
C'est une excellente nouvelle quand on est curieux, et moi je trouve que le rap, artistiquement, il se porte pas mal. En revanche, ce qui est compliqué, c'est comment les publics se regardent en chien de faïence. C'est ça que j'essaye de parler dans le livre, c'est que parfois, effectivement, il y a des incompréhensions avec... Moi, je l'ai vraiment vécu l'année dernière avec l'interview d'un artiste en particulier, où beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est pas du rap. C'est pas du rap parce que il faisait un genre de rap qui peut-être ne correspondait pas à ce qu'on avait l'habitude d'entendre, et ça crée beaucoup, beaucoup de critiques envers lui et envers moi, alors que moi, j'avais l'impression de mettre de la lumière sur une scène de rap parmi tant d'autres. Donc je pense que, comme aujourd'hui on est sur un rap qui est éclaté dans sa composition, pas dans son niveau, du coup, il y a beaucoup d'incompréhension, je pense, entre les différentes scènes. Et ça, il y a un challenge vraiment à relever, qui va être compliqué, mais qu'il faut relever, je pense.
Vickyère, on va écouter un extrait de votre musique, justement, mais avant cela, comment est-ce que vous décririez vous-même votre rap?
Moi, je dis que je fais du rap mélodique ou du mélo rap, tout simplement parce que j'aime chanter, mais on va retrouver des codes de rap qui sont dans la déconstruction de mon flow, dans le nombre de syllabes que je vais utiliser, dans les vibes que je vais utiliser, mais ça reste du rap, juste qu'il est beaucoup plus chanté.
Un extrait alors justement de ce titre intitulé Lobby.
C'est dans les épreuves qu'on change de mentalité. J'ai déjà fait mes preuves, ils me veulent quoi en vérité.
Toujours plus, toujours plus.
Pour éviter la chute, je prends des dalles sur mon image. C'est comme ça que les shoot.
Toujours plus, toujours plus.
Ouais, c'est lobby, lobby. Lobby, lobby. Ouais, c'est lobby, lobby.
Toujours plus, toujours plus.
Ouais, c'est lobby, lobby. Lobby, lobby. Ouais, c'est lobby,
mieux le
lobby.
Fermer, c'est ça le thème. Faire bouger le truc comme nos grands frères. C'est nous la culture, demande aux anciens. Je rentre du devlet chargé par les ancêtres. Reste debout comme la section. Réponds jamais quand ça me questionne. La tête est haute, jamais de pression. L'oseille, la mif, tout ce que j'affectionne. L'oseille, la mif, tout ce que j'affectionne. Faut que ça brille comme Eiffel Tower. Charbon de janvier à décembre. Papa, l'avenir sera décent. C'est tout droit, fait qu'une descente. J'fais que chanter le grind, le grind. Tout l'amour que je réceptionne. Et ceux qui tentent, on les additionne.
Et on en a parlé, Vicky, un exercice un peu narcissique. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, si vous pouvez commenter votre propre titre?
Le meilleur son du monde actuellement, ouais. Issu du meilleur projet de rap actuellement, voilà. Lobby de Vicky R, titre éponyme de mon dernier EP, voilà.
Et ben voilà, parole
en d'artiste. En toute humilité.
Parole d'artiste. Kevan Javadzadeh, votre sentiment d'ailleurs, et même quel est vous, le rap que vous affectionnez particulièrement d'une façon générale?
Alors Vicky R, moi j'écoute depuis un certain temps déjà, et je trouve que voilà, c'est un titre qui est extrêmement, extrêmement bon, comme le projet d'ailleurs, comme celui d'avant aussi. Aussi. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça a beaucoup changé aussi, oui, entre les débuts et maintenant. Et ça a changé, mais en même temps, on reconnaît toujours qui tu es à travers ton rap.
Et je le dis, je le précise, hein, il dit tout ça avec des yeux extrêmement, extrêmement admiratifs.
Il ment pas.
Mais il ment pas, une sincérité profonde.
Pas de mensonge.
Mehdi Maizi.
Non, bah, je me mets au concert de louanges. Mais moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup aussi depuis longtemps. Vraiment, effectivement, là, il y a une vraie évolution. Et là, c'est une proposition qui, je trouve, aussi assez moderne. Elle parlait de mélo rap ou de rap mélo. Et c'est vrai que c'est aussi, je pense, assez représentatif de ce que font beaucoup d'artistes aujourd'hui. Alors, à leur manière, ils font pas tous la même chose, Dieu merci. Mais voilà, ils ont vraiment réussi à intégrer des éléments de chansons, de R&B ou d'autres choses, de gospel pour des projets précédents de Vicky R. Enfin, de chansons. Sans perdre le côté rap, Vicky R, si on lui demande de rapper d'envoyer un 16 mesures incisif, elle sait le faire, mais c'est aussi faire des refrains super catchy. Donc c'est un peu, je crois, maintenant la panoplie des artistes rap aujourd'hui, qui est beaucoup plus complète, pour le coup, que celle des artistes d'il y a 30 ans, qui faisaient appel à des gens pour le refrain que Vicky R vient de faire. Et aujourd'hui, voilà, les artistes sont quand même beaucoup plus protéiformes qu'avant.
Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion, de ces conseils, de ces éclairages. Mehdi Maizi, un conseil justement, une lecture, le rap a gagné. À quel prix? C'est aux éditions La Fabrique. Kevan Javadzadeh, une lecture également à recommander. Hot, Cool and Vicious, genre, race et sexualité dans le rap états-unien. Vous en êtes l'auteur et c'est aux éditions Amsterdam. Cela a apparu en 2021. Vicky R, on l'a bien compris, on va pas continuer ses louanges. Mais peut-être deux EP, Système et Lobby. Merci à vous trois.
Merci.